C'est radio pandémique. C'est radio pandémique, c'est maintenant. Tiens, c'est maintenant. C'est...
Radio panique. Radio pandémique.
Non, non, c'est quoi ce virus? Non!
Coucou Natacha, ça va?
Ça va, ça va. Écoute, je regarde, j'ai des désastres partout autour de moi, mais moi, ça va.
C'est un peu chaud, hein?
Il y a vraiment des gens pour qui c'est cata, quoi.
Voilà, Natacha, je t'appelle pour qu'on discute un peu de comment toi, tu te mobilises de ton côté, chez toi, dans ton appartement, un peu comme moi. Alors du coup, les petites singularités, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est?
Alors, on est une asso et un collectif qui s'intéresse aux questions des pratiques collectives et du logiciel libre. C'est-à-dire qu'on vient de la question technique. Et ce qui nous importe, c'est que, ensemble, on utilise des outils qui nous permettent de travailler de manière qui nous semble, qui nous nourrisse plutôt que de se retrouver dans des situations de dépendance et aussi selon des processus qui nous sont dictés par l'extérieur. Donc on essaye autant que faire se peut de fournir des outils qui nous permettent de nous organiser, de parler ensemble, de conserver aussi, d'adresser les questions de la vie privée, bien que ce ne soit pas non plus le focus principal.
Avec ce qui se passe maintenant, et ça touche vraiment tout le monde et tout en général, on a notre vie qui est complètement chamboulée. Comment justement cet outil-là, est-ce que vous avez genre discuté entre vous pour trouver un moyen? Moi, j'ai vu que par exemple, on pouvait partager son ordinateur pour aider à faire avancer les recherches.
Ah, j'ai vu passer des choses comme ça. J'ai pas tellement d'informations. Mais oui, effectivement, il y a eu des, il y a eu, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup autrefois, qui maintenant se fait moins parce que il y a moins besoin de puissance des ordinateurs. Ça se faisait sur l'analyse spatiale, notamment il y a un programme qui est très, très connu qui s'appelait le SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence, quelque chose comme ça, et qui permettait de partager la puissance de son ordinateur. Maintenant, ça, j'ai vu que ça se faisait actuellement. Dans quelle mesure est-ce que j'ai pas plus d'informations. J'ai pas regardé ça de près. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on continue dans cette situation à activer les énergies qu'on activait avant, et surtout comment est-ce qu'on fait pour être tous ensemble après.
Si j'ai compris de... Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Si j'ai bien compris de par rapport à votre collectif, c'est que c'est pas des personnes derrière des ordinateurs chacun chez soi, c'est justement se rassembler ensemble et d'être à plusieurs, des fois derrière un ordinateur, qui sait. J'en sais rien, mais en tout cas que ce soit collectif, quoi, et pas chacun chez soi.
Et puis surtout de partager les manières de faire et les réflexions des milieux de la résistance, c'est ça qui nous intéresse. On se place clairement d'un côté précis, donc on a essayé d'associer un petit peu les informations qu'on pouvait trouver sur les soins à nos initiatives. Par exemple, il y a Crime Scene qui a proposé un article qui est vraiment extraordinaire, Prendre survivre au virus, une méthode anarchiste, qui parle des réseaux affinitaires et de l'utilité des réseaux affinitaires dans la situation actuelle. C'est-à-dire que c'est important de se sentir entouré de personnes de confiance, et c'est important qu'en cas de problématique dans notre réseau affinitaire direct, on ait des réseaux de secours, donc un principe de décentralisation qu'on retrouve dans ce qu'on prône, dans ce qu'on met en place au niveau de la technologie. Et on essaye de réunir un petit peu les questions, les ressources, pour que il y a quand même peut-être un jour où on va avoir un peu de possibilités d'action.
Justement, ce traité.
Mais il est sur notre forum.
D'accord.
Donc, il est sur le forum. On a relié, parce qu'il est sur le site de Crancic, évidemment, mais on a relié. Et ce qu'on aimerait, c'est que les personnes viennent, commentent, donnent leur opinion. On aimerait que ce soit un lieu de débat. Un lieu de débat hors des médias traditionnels, enfin des médias traditionnels, des médias centralisés, donc qui permettent des fonctionnalités différentes et qui permettent des systèmes de fédération différents. Donc notre forum, c'est celui de Petite Singularité au pluriel. Et l'adresse, c'est ps.zoetical, donc zoetical.org. Zoetical, ça veut dire Zoé comme la vie.
Sinon, comment ça se passe? Enfin, là, si tu veux, je peux un peu... Ou est-ce que tu veux encore dire quelque chose? Un petit message de...
Inviter les gens à rejoindre. On a besoin de... d'espaces de conversation dédiés à ce qui est en train de se passer, et en dehors du bruit ambiant des médias qui sont vraiment stressants et oppressants, de prendre un peu de distance et de prendre un peu de soin de nos idées et de notre état mental. Voilà, c'est une invitation.
Voilà, là, il y a un cas d'une personne qui a été malade. Bah, ils l'ont mis au cachot, il est là depuis 4 jours. On sait qu'il est malade, mais on ne sait pas ce qu'il arrive pour lui. Donc, on dirait que... Bon, voilà, ça, je ne sais pas pour la Belgique où ça en est, mais par exemple, là, la solution de confinement, c'est de les isoler tout seuls au cachot et de pas demander de leur reste. Donc, voilà, la situation est critique dans les centres fermés et... Là, il faut absolument la demande. Enfin, il faut vraiment de vider tous les centres fermés. Déjà depuis des années, mais là, dans ce contexte de crise, d'autant plus, c'est complètement illégal et complètement inhumain que tous ces gens restent là-bas. Et pourtant, là, c'est la décision arbitraire de l'Office des étrangers qui ne répond pas à ces obligations. Voilà. Donc, la suite des informations seront publiés sur gettingthevoiceout.org et aussi effectivement si de ceux qui écoutent là vous avez connaissance d'une personne détenue en centre fermé vous pouvez prévenir à l'adresse de Getting the Voice Out, donc c'est Getting the Voice Out tout attaché, Getting the Voice Out at riseup.net pour voilà dire si vous avez des contacts pourrait relayer aux avocats. Voilà.
Et juste pour finir, tu sais, tu parlais de grève de la faim, tu sais où ça en est ?
Alors actuellement, je suis pas sûre qu'il continue, mais ça a été beaucoup vraiment au début de l'annonce du confinement. Depuis le fait qu'il y ait plusieurs libérations, voilà, il y a aussi certaines personnes. Enfin, on a aussi moins de contacts dans les centres, puisqu'il y en a qui ont été libérés ou expulsés au début. Et donc, en ce qui concerne la grève de la faim, par exemple, je crois qu'au 127 bis, il n'y a plus. À Votem, c'est possible que ça continue effectivement. Voilà. C'est tous les jours, la situation change un peu, donc c'est en appelant un peu tous les jours qu'on arrive à voir ce qui se passe. Il y a aussi un collectif qui a plus d'informations par rapport au centre fermé de Votem, qui est à côté de Liège. Le collectif qui s'appelle le CRACPE, le collectif de résistance au centre pour étrangers, qui sont très en contact avec ce qui se passe dans ce centre-là. La situation était vraiment critique. La semaine dernière, il y a eu beaucoup de tentatives d'évasion, des tentatives de suicide, enfin, il y a eu beaucoup de choses. Mais donc, vous pouvez aussi voir, il y a donc aussi des informations qui sont publiées sur le Facebook du collectif CRER, le collectif CRER comme le verbe créer, C-R-E-R, et aussi sur la page Facebook du CRACPE. Plus d'informations par rapport au centre fermé de Votem, collectif de résistance au centre pour étrangers, tout ça en attaché, si je me souviens. Voilà.
Ouais, parfait. Ben, merci à toi.
Ok.
À vous, et puis ouais, on se tient au courant.
Ça marche.
Ciao, allez, ouais. Bonne fin de journée. Ciao.
Ouais, ciao, ciao.
Ce ne sera pas la fin du monde tant qu'il y aura la radio.
Quel TV s'était embarqué avec les jeunes gens, donc il le ramena à Saint-Essos, avec 30 rames. Les Athéniens l'ont conservé jusqu'au temps de Démétrius de Phalère. Ils en enlevaient les planches, quand elles étaient trop vieilles, et les remplaçaient par d'autres. Un solide qui fixait à l'ensemble.
Every time I walk on by, the song that's long you see. Just believe there's not a thing in the world. Thing left to receive the peace, the peace.
Hey, Laure.
Hey.
Ok.
Et Olga.
Ouais.
Du coup, bah oui, comme je te disais, on est en train de faire vivre la radio, même si on n'est pas dans les studios. Toi, t'es italienne et que t'as des amis qui sont là-bas et qui vivent la chose. En 2 semaines, ça fait plus. Ça fait combien de temps en fait que ça a commencé en Italie?
Là, ça fait le premier cas, c'était, si je me rappelle, le 21 février. Mais là, ça fait quoi? Presque 2 semaines qu'ils sont enfermés chez eux, quoi. Enfin, enfermés. Hein. Après, ça fait presque un mois qu'il y avait déjà des restrictions et tout ça, quoi, quand même.
Mm-hmm. Un peu comme celles qui sont prises chez nous, quoi.
Non, chez nous, enfin, les restrictions, tu veux dire? Tu veux dire,
ouais,
oui, ça a commencé vachement
plus tôt. Explique un peu, c'est quoi les restrictions qu'il y a en Italie, comment les gens, ils le vivent là-bas?
Selon mes amis, qu'ils ont tous, à peu près tous, vers Milan, donc, où il y a le plus de cas, en fait, c'est un peu chiant. Attends, parce que je dois la musique. Les restrictions sont similaires ici, sauf que il y a 2 jours, ils ont mis des restrictions encore plus restrictives, dans le sens que les gens, maintenant, ils peuvent même plus sortir de la maison du tout, quoi. Ils peuvent même pas promener le chien, qui normalement vont durer qu'une semaine, mais on sait pas. Donc ça fait maintenant 3 jours que les gens, ça fait que les gens que je connais en fait, que c'est quand même des gens assez, on peut dire positifs à la base, qui ont plein de positivité dans eux-mêmes, quoi, commencent vraiment à paniquer, à déprimer, à perdre l'espoir surtout, parce qu'ils disent si tout ça finit, que ça revient, ça va jamais revenir comme avant, c'est pas possible. Une autre conséquence qui est très grave en Italie, c'est que là-bas il y a pas de système social comme chez nous, il y a pas des CPS ou des aides sociaux. La plupart des gens qui travaillent sont sous des contrats très très précaires, donc ils ont pas de chômage à la fin. Tout le monde est en train de perdre leur boulot, et là il y a pas moyen de répondre, quoi. Donc il y aura beaucoup 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 de business qui vont fermer pour toujours. Il y aura des familles ruinées financièrement parce qu'il y aura pas d'aide, et une fois qu'ils finissent leurs économies, ils auront rien du tout, quoi, qui rentrera de la maison, quoi, comme argent. Donc c'est vraiment, ça devient vraiment catastrophique si ça continue comme ça.
Et est-ce que il y a des gens qui se mobilisent? Ils se mobilisent comment de leur côté? Ça se passe comment?
La seule chose que je peux dire, c'est que par exemple concernant ma maman qui est très qui est assez âgée et qui est enfermée à la maison, elle peut encore recevoir des repas chauds à la maison une fois par jour. Ça, ils ont pas arrêté.
Est-ce que tes amis ils te parlent aussi de comment on gère les personnes qui sont à la rue? Ça se passe comment? Enfin, ils sont au courant ou on leur cache les choses?
Je sais pas. On n'en a pas parlé parce que c'est un peu la panique en ce moment. Les gens commencent vraiment à devenir malades. Il y a énormément de gens dans la rue en Italie, ça c'est clair.
Bah, en tout cas, tu peux me tenir au courant et on peut refaire un petit entretien où tu parles un peu de comment ça se passe en Italie, parce que nous, on n'a que les infos qui passent à la télévision, mais en fait, au final, on ne sait pas grand-chose, quoi.
Je ne sais pas, moi, je ne regarde pas la télévision, parce que ce que j'ai, de temps en temps, j'écoute les infos ou quoi. Malheureusement, ce n'est pas des conneries, quoi. Tu vois, le fait que l'armée a dû intervenir pour faire évacuer les morts, c'est vrai, quoi. C'est très, très impressionnant. C'est mon pote qui me l'a dit. J'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie. Moi, j'ai un pote qui est gravement malade, mais vraiment, qui n'est pas bien du tout. Et qu'ils lui ont dit, de toute façon, on ne peut rien faire pour toi. Il faut juste que tu restes à la maison. Ils lui ont filé une prescription de médicaments. Il est passé à la troisième phase de la maladie, quoi, celle où il arrive plus à respirer. Et lui, on dit, vous continuez à contrôler votre température, vous nous appelez quand vous dépassez 39 degrés et que vous arrivez plus du tout à respirer. Et là, on va vous amener à l'hôpital, sur un petit lit par terre, mis posé par terre, en attendant que peut-être, en espérant d'avoir une machine à respiratoire de libre, quoi. Donc, c'est vraiment, le problème, c'est qu'il prend les cas trop tard, vraiment trop tard. Ils sont vraiment au fil, à la fin de leur vie, et c'est vraiment trop tard pour les soigner, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'il y a autant de morts, quoi.
Et Olga, ton ami, tu disais qu'il était au milieu de la campagne. Donc, c'est même pas forcément... Enfin, il sait pas comment il l'a attrapé. Il a été voir des gens. Enfin, il sait pas...
Il sait pas trop parce que en fait, donc, il est au milieu de la campagne, mais malheureusement, il est vraiment dans... Et ça, c'est un autre pote qui me l'a expliqué. C'est vraiment la région, le lieu où ça a tout dégénéré au plus vite, en fait. C'est vraiment là, à côté de Godogno, là où que ça a pris une ampleur de fou et que ça a tout commencé. Donc, lui, il habite dans cette région-là. C'est une région très, très polluée. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y en a qui disent qu'en fait ça, le virus a attaqué les régions très, très polluées parce que là-bas, les gens, ils ont plus de problèmes de santé déjà au départ. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais voilà, lui, il me disait qu'il a pris le train deux fois depuis que tout ça a commencé et que peut-être il l'a attrapé sur le train, mais ce n'est vraiment pas quelqu'un qui traîne dans les bars. C'est très improbable, quoi. C'est
la
bizarre, quoi.
Radio.
C'est très bizarre.
Au temps du corona.
Et alors, vous savez, comme on a envie de prendre tous les risques et de faire de la radio expérimentale et de s'amuser jusqu'à 14h, il y a Jean-Louis Aubert au téléphone avec sa guitare d'un côté. Mishka, vous êtes au téléphone aussi et nous, on est là. Pour l'instant, on vous entend très bien, un peu loin parce qu'on est au téléphone. Qu'est-ce que vous voulez nous jouer là pour nous dire bonjour?
Ah bah, je sais pas, mais Mishka, il a écrit un bouquin qui s'appelle Un autre monde.
Alors, on y va.
Je rêvais d'un autre monde. Où la terre serait ronde.
Jean-Louis Aubert, le meilleur chanteur français.
Où la lune serait blonde. Et la vie serait féconde. Allez, allez, allez!
Ouais!
Je marchais les yeux fermés. Je ne voyais plus mes pieds. Ça va?
Mais c'est génial, merci Jean-Louis Aubert pour ce moment de radio unique. Ça nous sort du confinement. Merci, merci. Mais... Comment vivez-vous là ces derniers jours, cette période? Comment vous la traversez?
Oh bien, voilà, je suis toute la journée à faire un peu de musique et à profiter de la vie. Et puis j'adore ça, un peu écrire, récolter des idées que des gens voient sur le net. Tout le monde est très créatif. Enfin, je veux pas voir les choses d'une manière trop optimiste, mais...
Écrire est évidemment une bonne idée apparemment, même si la question du courrier partant de virus est un peu délicate. Ouais. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, le risque de contaminer une personne via une lettre serait quand même faible. Prévu précisément dans ces confinements de personnes qui ont été en contact avec une personne infectée. Le député Jérôme Guedj, co-animateur du think tank Matière Grise, affirmait dans Le Point la semaine dernière que cette crise sanitaire ne faisait que révéler la façon dont notre société considère et traite ses vieux.
Comment prendre soin de nos aînés? Cette question, on l'aborde avec notre invité Mathieu Anit. Vivi, bonjour madame.
Bonjour madame.
Vous êtes gérontologue, fondatrice du site agevillage.com, un site d'info des seniors et des aidants sur lequel on peut trouver beaucoup d'informations sur le coronavirus. Et vous êtes l'auteur d'un livre, J'aide mon parent à vieillir debout, aux éditions Chroniques Sociales. Alors, pendant un quart d'heure, il y aura nos questions à Annie de Vivi et puis celles des auditeurs de France Inter, et notamment Jacqueline qui nous appelle de Côte d'Or. Bonjour Jacqueline. Jacqueline. T'es pas là.
L'État va assumer sans difficulté les rémunérations de ses fonctionnaires.
qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai bien aéré tout mon appartement. Mmh. Et après, j'ai mis de la musique de ma jeunesse très, très, très fort et j'ai dansé.
Wow.
Et j'ai pas écouté, et j'ai pas allumé la télé. Et cet après-midi, je pense que je vais un petit peu lire.
Et là, voilà. Votre patron là, qui vous croit au télétravail, il nous écoute en ce moment, vous pensez?
Bah, c'est ce qu'elle a à faire, hein, Maria.
Non, mais je suis au télétravail.
Oui, j'ai bien compris. Mais il n'y a pas beaucoup de travail, c'est ça que vous
dites? Elle n'en a pas beaucoup, en
oui.
fait.
Oui, j'en ai pas beaucoup. Et puis, ben, je me fais des petites récrés. Voilà.
Vous avez bien raison.
Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est-à-dire que j'ai angoissé...
lundi.
Entre dimanche et lundi.
C'est ça.
Mais beaucoup, beaucoup. Et puis... mardi aussi, depuis hier.
Ah bon, bah, c'est récent, votre mieux, Marielle. Mais là, on vous sent quand même assez... pour le moment avec ce confinement.
Oui.
C'est sur le front. On ne sait pas, c'est les gens qui ont le coronavirus. Je ne suis pas dans la psychose la plus totale, mais bon, juste, il faut juste respecter que y a derrière la blouse blanche, il y a aussi des gens et des personnes qui vont rentrer à la maison et qui ont une famille à s'occuper. Voilà, c'est tout ce que j'avais besoin de dire.
Merci, Niège très touchant encore une fois, qui, pardon, hein, me donne parfois le sentiment que la France est un pays pauvre. Voilà.
In the basement flat by the garages where the people dump their mattresses, Esther's in her kitchen making sandwiches. The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer, doing nights. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache, she cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4:18 a.m. again. Her brain is full from all she's done that day. She knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way. She's worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her mind. Lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. System's too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow. All of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want. And dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring. But sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat, to dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it pushing my body like I push my hands into pockets. And softly I walk and I see it, this is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge. Traffic keeps moving, proving there's nothing to do. Cause it's big business. business, baby, and its smile is hideous. Top down violence, a structural viciousness. Your kids are dope stopping. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising, the water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes, ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation lives beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got glassed in the last bar. Place went nuts, you can ask our new. It was madness. Roll ran red, pure claret, and about them immigrants. I can't stand them. Mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich, it's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager. Pray for a raise, cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Political cash in an envelope. Court sniffing lines off of prostitutes, prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They abduct kids who fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of it all generation. The product of product placement and manipulation. Shoot em up brutal, duty of care. Come on, new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me, outside the palace of me. Construct of self and psychosis. Meanwhile the people were dead in their droves. And no, nobody noticed. Well, some of them noticed. You could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright and less dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost, and still nothing will stop, nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships to think of, divorces to drink of, the thought of the money, the oil. The planet is shaken and spoiled, and life is a plaything, a garment to soil, toil the toil. I can't see an ending at all, only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures, develop, develop, and kill what you find if it threatens you, no trace of love. In the hunt for the bigger buck, here in the land where nobody gives a fuck.
L'affreux Marmeladov qui prostitue sa fille Sonia pour se payer sa boutique. Il a bien conscience de sa déchéance et de son crime, mais il dit: je sais, moi, Marmeladov, l'infâme, je sais qu'au jour du jugement, le Seigneur me dira: allez, viens. Venez, vous tous, les débauchés, les ivrognes, les pêcheurs publics, venez, entrez dans le royaume.
Décontractante, agréable, j'ai honte, mais j'étais très heureuse hier.
Je peux m'oublier complètement devant c'est du propre.
Solution: toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades.
Trouvez toutes les informations et tous nos engagements sur carrefour.fr.
Complète, pois cassés, tout comme les haricots, les pois cassés.
Quelque part, d'une manière ou d'une autre, dans l'univers, il restera quelque chose de nous et quelque chose se transformera de nous. Quand on a des enfants, on laisse déjà quelque chose. C'est un... Les enfants et les petits-enfants, c'est une part de vie éternelle, finalement. Ouais. me mucho, como si fuera esta vez la última vez. Bésame, bésame mucho, bésame.
Conclusion de ce petit tour des chaînes de radio françaises en ce 20 mars 2020. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Comme disait l'autre.
Bah voilà, j'appelle parce que j'arrive pas à dormir. Et voilà. J'arrive pas à dormir. Il n'y a pas de bruit. J'ai l'impression que tout est très silencieux et endormi comme ça. Mais ça me fait aussi cet effet-là un peu la journée. Donc c'est bizarre. Mais j'arrive pas non plus trop à dormir la journée. Donc voilà. C'est un peu vide.
Alors, je travaille dans le secteur d'aide aux sans-abri à Bruxelles depuis maintenant une petite année. Ce qui se passe, en fait, c'est que les problèmes qu'on rencontre au quotidien sont démultipliés, en fait, par la situation actuelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les politiques de lutte contre le sans-abrisme à Bruxelles, mais comme dans toutes les grandes capitales européennes, en fait, sont des politiques de gestion des effets du phénomène et mais pas du tout une manière d'essayer de conjurer les facteurs structurels qui conduisent au sans-abrisme, à savoir la paupérisation croissante de la population, et en particulier des franges les plus précarisées des classes populaires, le traitement de la question migratoire et la situation du logement, évidemment la pénurie de logements abordables, la pression sur le marché locatif. Et en gros, bah, à l'heure actuelle, ces problèmes sont grossis parce que la politique publique en la matière vise simplement à une simple mise à l'abri, une espèce de gestion humanitaire du public. Et qu'aujourd'hui, cette gestion humanitaire-là est elle-même en crise, en définitive, parce que les centres d'hébergement sont des gros centres à grosse capacité, qui ne sont pas du tout adaptés là pour pouvoir éventuellement isoler des gens, mettre des gens en confinement s'ils présentent des symptômes, etc.
J'avais cru entendre qu'il y avait des centres qui avaient fermé aussi, mais en fait, les centres d'accueil restent ouverts.
Les grands centres d'accueil d'urgence et de crise, pour l'instant, restent ouverts. Donc la plupart sont gérés par le SAMU social à Bruxelles. Il y a différents centres d'accueil de jour qui ont limité les services qu'ils mettaient à disposition. Il faut savoir que, et on peut les comprendre, les associations fonctionnent, enfin, ça dépend, il y a des grandes associations dans le secteur d'aide aux sans-abrisme à Bruxelles, mais il y a aussi de toutes petites assos qui fonctionnent avec un nombre limité de salariés, une petite équipe, et bon, il suffit que quelqu'un parmi l'équipe présente des symptômes, tombe éventuellement même malade, et on ne peut plus assurer la continuité des services.
Oui,
un ensemble d'accueils de jour, par exemple, qui proposent de maintenir certains services, mais qu'on ferme leurs portes, faire par exemple des distributions de colis alimentaires dans un créneau horaire de la journée, mais qui ont suspendu les services habituels d'accueil, où les gens peuvent venir, par exemple, prendre un café durant la matinée, faire une sieste l'après-midi, etc. Il y a de moins en moins de possibilités, principalement pour l'instant en journée, pour les personnes sans abri. Début de la crise.
Quels sont les moyens de protection qu'ont les personnes qui travaillent sur le terrain et aussi est-ce qu'il y a des moyens de protection qui sont mis à disposition des personnes sans abri?
Malheureusement, on n'est qu'au début de la crise, a priori. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande pénurie de matériel, des masques en particulier. Pense en particulier aux travailleurs de rue et aux gens qui font les maraudes. Ils ont a priori des protections, mais pas assez. Donc ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, par exemple, les masques, faut classiquement et normalement, faut les changer tous les 8 heures pour que ce soit vraiment efficace. Donc là, effectivement, pour l'instant, on sait pas comment on va tenir sur le long cours, quoi. A priori, il y a des choses qui vont être débloquées, on attend des arrivages de masques, etc., qui va permettre au service d'être maintenu, mais voilà, il y a globalement une pénurie de matériel, et forcément, ces gens de première ligne sont de toute façon très exposés, donc c'est aussi compliqué de faire le choix d'un point de vue individuel, de continuer ou non ce travail, qui est forcément entre guillemets à risque. Et voilà, c'est compliqué aussi à ce niveau-là.
Toi,
toi, tu as une vue un peu déjà des personnes qui sont contaminées, de... enfin, est-ce qu'il y a un peu une idée aussi bien du côté des personnes qui travaillent sur le terrain que des personnes des sans-abri?
Pour l'instant, à Bruxelles, et concernant le public sans-abri et les travailleurs et travailleuses qui travaillent auprès de ce public, a priori, et comparé à l'ensemble de ce qu'on peut entendre à travers les médias pour ce qui est de la France et d'Italie, en particulier ces derniers temps, il y a a priori pour le moment peu de cas comparé à l'ensemble de la population qui est accueillie tous les jours dans les services d'hébergement d'urgence, mais rien ne nous permet d'évaluer comment la situation va évoluer ces prochains temps. Et faut s'attendre à ce que les cas augmentent et du coup à ce que les services soient saturés. Parce que la situation s'aggrave, ouais.
Ouais, après, ce qui je trouve compliqué à estimer, c'est que... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas testées, donc c'est compliqué, en fait, de savoir combien il y a de cas, effectivement, quoi.
Bien sûr, parce qu'il faut, enfin, comme tout le monde l'a entendu maintes fois maintenant, il y a des personnes qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a contracté le virus qu'on développe des symptômes. Donc, que ce soit les gens qui sont à la rue ou les travailleurs qui bossent avec eux, pour les aider, il peut y avoir des gens qui ont le virus, mais dont on sait pas, en fait, enfin, qui sont pas au courant. Et donc, ces gens-là, particulièrement, peuvent, eux, par contre, contaminer des personnes, fragiliser, qui cumulent souvent des problématiques d'aspétude, des problématiques médicales, donc ils sont particulièrement fragiles, quoi.
Oui, ça aussi que je voulais demander, c'est est-ce que, du coup, toi, t'as observé que, du fait de l'épidémie de coronavirus, il y avait un déficit dans le suivi des autres soins ou des autres problématiques que rencontrent ces personnes?
Il y a de toute façon un déficit, c'est-à-dire que c'est un des secteurs sociaux, mais comme beaucoup, comme le social d'une manière générale, mais c'est un secteur social qui souffre d'un manque de moyens à tous les niveaux, que ce soit au niveau des soins, que ce soit en matière médicale, en matière d'accompagnement, etc. Les assos se battent pour fournir des services de qualité, mais souvent fonctionnent avec peu de moyens et peu de personnel. C'est les gens qui bossent sont hyper compétents, très bien formés et très efficaces, investis. Mais souvent, voilà, on a un manque de personnel, un manque de moyens, etc. Donc, à nouveau, c'est toutes ces problématiques-là qui sont grossies au regard de la situation actuelle, quoi.
C'est quoi les besoins que vous auriez là, concrètement?
Alors là, en fait, il y a plein de gens qui se portent volontaires pour essayer de prêter main forte. L'embêtant, mais ça, c'est un peu partout dans ce type de secteur d'aide. Il faut aussi pouvoir assurer la sécurité de ces gens-là, savoir comment les orienter, comment faire en sorte que ces aides puissent porter leurs fruits, être utiles et puis être véritablement efficaces. Donc ça, c'est pas forcément facile aussi. Il y a tout un travail de redirection et de centralisation, de canalisation de toutes ces possibilités qui sont pas forcément évidentes à mettre en place. Mais toute aide est la bienvenue en même temps en ce moment, et c'est toujours au cœur de voir que des gens se mobilisent à ce niveau-là, quoi.
J'ai entendu qu'à Etterbeek, le bourgmestre avait réquisitionné un hôtel pour loger des personnes. Je ne sais pas si toi, tu as entendu parler d'autres initiatives.
Tout à fait. Pour l'instant, il y a très peu d'initiatives dans ce sens-là. L'idée, c'est de pouvoir très rapidement essayer de réquisitionner des bâtiments pour transformer ces lieux-là en forme de hub humanitaire, donc des espèces d'accueil de jour qui permettraient aux gens à la fois de venir se reposer, de manger, pouvoir éventuellement se soigner, prendre des douches, etc. Mais pour l'instant, il y a des possibilités, mais très peu de solutions concrètes. Mais à terme, étant donné la façon dont ça se passe maintenant, il faudra absolument réquisitionner des bâtiments à Bruxelles. On sait qu'il y en a beaucoup qui sont vides. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup d'hôtels. Aujourd'hui, il n'y a plus un touriste à Bruxelles. Donc ça peut être une possibilité, une des options possibles, quoi. Ouais. Réquisition d'hôtels pour pouvoir loger des gens en cas de crise, ouais, tout à fait.
Tu vois d'autres pistes?
Il était question à un moment de réquisitionner les bains de Bruxelles qui ont été refaits à neuf. Enfin, moi, je connais pas bien les lieux. On n'est pas sûr que ça va pouvoir se faire, sachant qu'à chaque fois, il faut que la configuration des lieux puisse se prêter à un accueil de personnes qui, potentiellement, vont avoir des problèmes de santé. Donc, il ne s'agit pas que ce soit des grands espaces ouverts où les gens puissent être en permanence en contact les uns avec les autres. Il ne s'agit pas d'isoler les gens pour les isoler, hein, mais qu'il y ait la possibilité aussi que les gens puissent avoir des espaces individuels si jamais ils présentent des symptômes, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de contagion massive dans des centres. Il ne s'agit pas de transformer des grandes salles en espèce de pré-centre médicalisé géant, quoi. Il faut que les gens puissent être, comme tout à chacun, en fait, puissent se confiner aussi et puis et traverser cette crise comme tout le monde, quoi.
Il y a plusieurs personnes qui ont observé dans les parcs, à plusieurs endroits, les flics qui débarquent pour chasser des personnes, des bandes, des personnes qui stationnent en leur disant de rentrer chez eux. Ce qui est assez ironique, vu la situation. Toi, tu penses quoi de ça? Enfin, voilà, est-ce que vous rencontrez des personnes qui ont vécu ça?
C'est évidemment ridicule de chasser les gens, ça ne sert strictement à rien. Puis c'est, comment dire, c'est un des slogans qui est souvent brandi par... même par le secteur associatif, hein, par le secteur militant, mais même par le secteur associatif, c'est que demander à un sans-abri de rentrer chez soi, évidemment, c'est ridicule. Voilà, pour ce qui est de, pour ce qui est des opérations de police qui sont menées ici ou là, non seulement c'est ridicule, mais en plus on ne les comprend pas. Comment dire, les interventions policières correspondent à ce qu'on connaît, justement, en matière de gestion policière des publics, entre guillemets, indésirables. Mais en plus de ça, là, on comprend pas bien la logique, quoi. Étant donné que, bah, ces populations se dispersent, puis vont se rassembler autre part, et que, il y a vraiment aucune forme de cohérence, a priori. En tout cas, moi, je la vois pas, quoi.
Ouais, et en plus que, bah, si on fait un point sur la situation, c'est, d'une part, tu as l'air de dire qu'il y a des espaces d'accueil, mais qui sont pas du tout adaptés au risque de contagion. Qu'il y a une ou l'autre initiative de réquisition, mais en fait pas du tout en suffisance que pour loger les personnes. Mais par ailleurs, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être contraintes à être logées dans des espaces d'accueil.
Ça, que ce soit en situation de crise ou non, c'est toujours une question très compliquée, en particulier pour les travailleurs sociaux, à savoir est-ce que c'est un choix d'être en rue. C'est jamais tout à fait comme ça qu'il faut poser la question, quoi. Ce qui se passe, c'est que bah, il y a certains centres qui ont des conditions d'accueil, avec des normes, avec des règles, et qui correspondent pas forcément à certaines personnes. Je peux prendre le cas un peu facile, mais véritable, des personnes qui ont des chiens, des animaux de compagnie, et qui, voilà, qui ne peuvent pas laisser leur animal à la porte d'un centre pour la nuit. Ça, c'est peut-être un exemple. Il y a multiples raisons pour lesquelles on est amené à pas être pris en charge par un centre. Après, ça veut dire que les gens qui ont le choix de rester dehors, c'est toujours compliqué. La manière de poser la question, en fait, c'est un vrai dilemme, souvent, dans le travail social, ça. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, alors que ce soit par manque de place, que ce soit parce que le système de redispatch sur l'ensemble des centres d'hébergement est compliqué, que ce soit parce que il y a des gens qui, pour des raisons ou d'autres, ne trouvent pas place, on va dire ça comme ça, dans les centres d'hébergement d'urgence et de crise, quoi qu'il en soit, en temps normal, il y a toujours une partie du public qui est à la rue, quoi. Il y a toujours une partie du public qui est sans-abri, qui reste à la rue, donc on appelle sans-abri des gens qui sont à la rue ou hébergés dans les centres d'hébergement d'urgence. Et puis il y a, bon bah parfois il y a aussi des personnes qui peuvent être hébergées un jour et retourner à la rue le lendemain. Tout ce public qui est pris en charge par cette espèce de gestion collective de la misère, faut bien l'appeler comme ça à un moment, il est de toute façon très à la fois soumis aux aléas, très précarisé évidemment, et il peut se retrouver à tout moment à la rue. Ça en temps normal, misère comme état, on le dit trop souvent parce qu'on est un peu les politiques publiques font qu'on fonctionne. Avec ce que les gens du secteur d'aide aux sans-abri on coutume d'appeler la gestion au thermomètre, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des places en hiver, à la fin de la période hivernale, on coupe les subventions pour les places supplémentaires qu'on avait débloquées, et les gens se retrouvent à la rue. Et là, évidemment, que ce soit en hiver ou même en été, donc il y a toujours une partie à la rue, et là, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes, parce que c'est des personnes qui sont partiellement soumises au risque de contamination. Quoi.
Si on devait voir l'après, penser l'après-crise, est-ce qu'il y a des choses qui te sembleraient importantes à changer pour pas revenir à la situation antérieure qui n'était pas du tout enviable non plus?
On est nombreux à dire que la situation de toute façon n'était pas enviable avant, donc on espère que au moins que cette crise aura eu le mérite de rendre particulièrement saillantes les problématiques qui étaient déjà présentes avant. Il faut impérativement changer son fusil d'épaule et attaquer aux causes structurelles du sans-abrisme, que ce soit l'interdiction des expulsions, que ce soit le plafonnement des loyers, etc. Il y a énormément de mesures à prendre en amont, en fait, pour éviter que les gens tombent à la rue. Le meilleur moyen de lutter contre le sans-abrisme, c'est d'éviter que les gens tombent à la rue. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit passer. Et c'est vrai que pour l'instant, parce que ça s'est installé sur le très long cours et que c'est une situation qui a été acceptée aussi dans les représentations collectives depuis très longtemps, on est plutôt dans une forme de gestion de la misère où, en fait, on a un public qui est soit à la rue, soit hébergé dans les centres d'hébergement de crise, et on prolonge comme ça une espèce de gestion humanitaire de cette population. Mais le sans-abrisme, c'est que la face émergée d'un iceberg beaucoup plus grand est la situation socio-économique actuelle. On est nombreux à rester là-dessus, mais on espère en tout cas que cette crise rendra encore plus visible cette problématique-là. Quoi.
Bon.
Oui, c'est où la stuff?
Oui, j'en ai marre. Profondément, j'ai envie de me la caler, mais genre bien. On fait quoi?
3 jours de confinement.
J'en peux plus. En plus, c'est vendredi soir, bordel, sa mère.
C'est leur anniversaire.
Oui, et je fais 1 an avec ma femme. Bisous les enfants, on vous aime. Bon,
comment ça se passe pour toi? Tu viens vraiment de commencer cette job à l'hôpital de Montréal?
Ouais, bah littéralement, ça fait 3 semaines que j'ai commencé.
Ah, 3 semaines quand même, ok.
Ouais, donc, ouais, sauf que ça fait un drôle de timing, là, parce que je viens de finir mes trainings, mes compagnies, les formations. Puis là, pour retomber dans mes nouvelles formations en mode épidémie, pandémie et compagnie. Donc.
Ok, donc quand tu as commencé de travailler là-bas, c'était pas encore, vous n'étiez pas au courant, quoi.
Non, c'est ça, c'est vraiment. Dans les nouvelles, on commençait à en parler comme un truc en Chine, en Corée et compagnie, là, il y a 3 semaines même pas.
Ok. Ok, donc, donc tu as été engagé comme quoi exactement? C'est quoi ton statut là-bas?
Mais en gros, l'enfant, à la base, j'étais engagé pour travailler dans les cuisines, mais comme tous les trucs pour entretien dans la cuisine, en gros, qui s'est élargi en fait à plusieurs postes. L'enfant, j'étais formé pour faire une douzaine de postes différents. Puis chaque matin, ils m'appellent pour remplacer à gauche, à droite, là, où ils ont besoin de quelqu'un, en gros. Donc, je m'en trouve à faire. Je nettoie en ce moment, en fait. Depuis cette semaine, ils ont acheté des nouveaux postes, des nouvelles tâches. Et surtout, en fait, de désinfecter sans arrêt tous les trucs, les chaises, les rampes d'escalier, les poignées de porte, les trucs que les gens touchent souvent avec leurs mains.
Ok, donc, mais attends, vas-y, resitue un peu Olivier. Enfin, bon, moi, je te connais, mais à l'origine, tu es musicien, tu fais de la flûte, tu fais plein de musique, etc. Puis là, tu te retrouves en pleine pandémie à nettoyer un hôpital de fond en comble.
Ouais, c'est parce que malheureusement, la musique, parce que déjà que c'est dur de vivre la musique, là, avec, en ce moment, de tout ce qui est musique est comme premièrement comme annulé de partout, il n'y a plus rien qui se passe, donc c'est un peu l'enfer aussi à ce niveau-là pour les musiciens et les artistes qui travaillent en ce moment, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont, parce que presque 90% de ces gens-là, en fait, ils n'ont plus rien devant eux, de contrat qui... Jusqu'à. On sait pas quand, en fait.
Ouais, tout s'est annulé, quoi. Ouais. Mais donc, toi, t'as choisi ce boulot parce que tu savais que ça allait être dur, là, qu'il fallait que tu trouves à tout prix un truc un peu stable, enfin, là où tu savais qu'il allait y avoir du travail, ou c'est un peu par hasard?
Ben, c'est littéralement par hasard, en fait, parce que j'avais pas de boulot depuis 2-3 mois. C'était pas un moment facile, en fait. Puis là, je cherchais un boulot qui était quand même. Un peu respectable côté argent, conditions et comment dire, c'est juste comme demander un peu un truc pas trop. En fait, j'ai des mauvaises expériences tout souvent jusqu'à récemment avec des jobs pour des grosses compagnies où tu finis par être effacé dans un système. Là, puis, donc, je voulais pas ça, puis je cherchais un truc. Puis l'hôpital, ça me semblait être un truc humainement. Très important et contre lequel j'avais rien, tu vois. Donc, je sais pas, je voulais rentrer à l'hôpital d'une façon quelconque. Finalement, j'ai eu un contact parce que ma soeur travaille dans un autre hôpital que celui où j'ai été engagé, mais elle a entendu parler en des branches qui engageait beaucoup de gens pour l'entretien au CHUM. C'est un nouvel hôpital, en fait, qui vient juste d'ouvrir, comme, qui est tout nouveau. Un méga hôpital fusionné, là. En tout cas. Puis, en gros, donc, j'ai sauté sur l'occasion, puis là, ça a tombé que, oui, en effet, ils ont besoin de monde, parce que c'est le moment où jamais, en fait, là, il prévoit une explosion de besoins dans les hôpitaux, partout, pas juste au Québec, là, mais en général, je pense.
Et du coup, bon, bah, donc, tu viens de commencer, mais ça t'inspire quoi, là? Enfin, comment tu te sens par rapport au risque, toi-même, comment tu te protèges et tout?
Ben, en gros, tu sais, on est... C'est un peu bizarre, je dois avouer, parce que, tu sais, on est, la mobilisation de tout ce qui est, l'équipement extra, comme les gants, les masques et compagnie, tu sais, c'est, tout le monde a été pris de court un peu par cette pandémie, là, comme soudaine. Donc, alors, le programme d'aide, comment dire, l'hôpital est en train de revoir tous les programmes, toute l'administration, toutes les ressources humaines, absolument tout pour changer tranquillement comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, on fait ce qu'on peut. Tu sais, moi, j'ai accès à des masques, des gants en plastique, des temps plastiques en latex et compagnie. Mais bon, après, on a beaucoup de produits aussi pour éliminer tout ça. Mais bon, on est tous un peu inquiets quand même à l'hôpital parce que on peut pas rester chez nous. Il faut aller à chaque jour pour travailler. Mm-hmm. Puis on est des grosses équipes dans des locaux qui sont pas nécessairement faits pour respecter des espaces entre les gens. Au contraire, on est pas mal dans la cuisine en train de faire plein de trucs ou dans les étages si les gens sont dans des chambres avec des lits relativement près les uns des autres. Donc, il y a des gens qui ont aussi beaucoup de contacts. Puis les infirmières, principalement, eux, les proposés de l'hôpital, sur tout ce qui est presque qu'il y a des femmes, finalement, comme 80%, je pense. Mm-hmm. Mais en tout cas, donc, elles sont vraiment exposées à tous les patients qui rentrent, qui viennent et tout. Donc là, en ce moment, il y a une grosse révolution à l'hôpital. Ils refont à peu près tous les programmes, tous les trucs. Mais bon, nous, tu sais, en ce moment, les employés, par contre, moi, ça va, je vais avouer, je suis capable d'être bien avec la situation en ce moment, mais pour l'instant, moi. Mm-hmm. Mais après, il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets, disons, pour leur santé, puis pour les risques, tu sais, puis pour les, pour aussi les gens autour d'eux, tu sais, parce que peut-être des fois, il y a des gens qui pourraient être à l'hôpital, travailler toute la journée, ramener ça chez eux, dans leurs parents, ou peut-être des gens qui sont plus vulnérables. Mm-hmm. Donc voilà, ouais, c'est un truc. En ce moment, on se sent pas tellement en sécurité nécessairement. Mm. Je me sens pas nécessairement laissé au dépourvu non plus. Par contre, je sens qu'ils font vraiment un effort pour trouver un truc, mais faut qu'il y ait le temps. Mm-hmm. Puis nous, on peut pas prendre de pause. Comparativement, un peu tout est sur la glace en ce moment dans le monde, mais les hôpitaux, eux, tous les jours. Il y a besoin de plus de production que d'habitude, en fait, au contraire. En ce moment, ils sont en train de vider un peu les chambres, les lits. Pour, tous les gens qui étaient là un peu, mais qui n'avaient pas absolument besoin d'être là. Ou les gens trop vulnérables aux infections, comme les personnes très âgées et compagnie. Mm-hmm. Il y a beaucoup qui les renvoient à la maison. En ce moment, pour faire de la place, parce que, les hôpitaux au Québec sont bombés en général, là. Il n'y a jamais tellement de lits en général, mm-hmm. de libre. Donc là, en ce moment, ils s'attendent à en avoir un besoin d'au moins 200-300 dans chaque hôpital du Québec. Comme dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est presque sûr, à moins qu'il y ait un miracle qui se passe. Mais... Donc voilà, ouais.
OK, et à part ça, à Montréal, vous en êtes où niveau... Enfin, vous êtes à quelle phase exactement, là? Vous en êtes où? Tout est fermé? Les gens sont appelés à rester chez eux ou vous en êtes encore à circuler Ça se passe comment par rapport à...
Ben, théoriquement, on serait censé être en confinement. Puis c'est ce que le gouvernement un peu dit depuis quatre jours maintenant, je pense. Mm-hmm. Puis, tu sais, l'effet est là. On voit clairement que tout est fermé. Il y a tout ce qui est resto, divertissement, place publique, comme les malles et compagnie. Donc, tout est fermé. Mais après, tu sais, il y a étonnamment beaucoup de gens dans les rues quand même. Il y a beaucoup de trucs qui se passent quand même, on dirait. Il y a beaucoup de... ça paraît qu'il y a des gens qui prennent pas trop au sérieux le truc encore. Mm-hmm. Mais là, juste avant de te parler, en fait, quand je lisais les nouvelles, puis apparemment, à l'instant, aujourd'hui, ils ont serré le truc. Ils ont dit qu'on n'avait plus le droit des rassemblements ni intérieurs ni extérieurs, que depuis que genre 5 personnes, un truc comme ça. Puis avec la police avait le droit d'intervenir pour faire respecter ça. Mm-hmm. Donc là, la police dans la rue pour... À partir d'aujourd'hui, là, j'ai vu ça parce que les gens prennent pas au sérieux le truc.
Ouais, je crois que vous avez quelques jours de retard par rapport à la France ou la Belgique, quoi.
Ouais, c'est ça, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais tu sais, il n'y a rien qui va empêcher que ça nous arrive, je pense, parce qu'en plus, on est à côté des États-Unis qui n'ont pas l'air de faire grand-chose pour s'en occuper. Mm-hmm. Puis il y a tellement de gens qui font l'aller-retour entre les deux pays à chaque jour, puis la frontière n'est pas encore ouverte. Mm. Donc, on est un peu à leur merci, là, parce qu'ils sont 10 fois plus que nous, puis ils ont absolument pas de système de santé efficace. Donc, j'ai l'impression que le Canada va prendre un coup aussi dans le très peu de temps.
Êtes-vous sûr d'être vivant?
Mantrax, manuel de survie en territoire traqué. 10 courts-métrages obsessifs sur des mots d'Alain Damasio,
pour Fond Radio.
Alors, papy ? Oh, non, il ne veut pas se lever, papy, hein ?
Il n'y a pas que le ciel, hein, qui soit plus vieux.
Papy, il n'en a rien à foutre, parce que la philosophie de papy, elle est très simple, c'est plutôt pourrir que courir. Voilà, papy, voilà ce qu'il a dans sa tête. Plutôt pourrir que courir, hein, papy ? Plutôt pourrir que courir. Alors, ça, papy, il a que ça en tête. Il dit, bah, on va bien pourrir. On va pourrir lentement, mais on va pourrir sûrement. On va pas pourrir assez rapidement, comme ça, on va pas se laisser... On va pourrir, mais à petit feu, tout tranquillement, parce que, bon, courir, ça demande des efforts. Courir, il faut chausser les baskets. Courir, il faut aller dehors. Hein ? Voilà, voilà. Plutôt pourrir que courir. Plutôt pourrir que courir. Plutôt pourrir que courir. Hein, papy ? Hein, papy ?
Même les champignons font du sport.
Même les champignons font du sport. Alors,
Bonjour, chers auditeurs. Tu n'es pas seul, tu es sur Radio Panique. Bienvenue dans la joyeuse et grande communauté du Chacun chez soi.
Nous pensons à toi.
Nous pensons à toi, tu n'es pas seul. Et nous sommes avec toi. Car nous aussi, nous sommes seuls. Alors, si tu veux participer, tu peux aller sur le site de radiopanique.org.
Si tu veux participer,
il y a moyen de laisser aussi un message au 02 318 60 68.